L'atelier des médias.
Salut, c'est Ziad de l'atelier des médias. Comme c'est compliqué d'imaginer un monde où nous pourrions disposer de tous les outils géniaux du web et de l'internet sans craindre de devenir une marchandise, productrice de données, consommatrice de publicité, acheteuse de denrées. Comme c'est compliqué de songer à se séparer de Google, d'Amazon, de Facebook, d'Uber, pourquoi pas. Et pourtant, notre petit doigt numérique nous dit que Gmail, que Google Drive, ce disque dur virtuel, que Google Docs, ce traitement de texte gratuit et collaboratif, notre petit doigt nous dit que toutes ces inventions géniales, toutes ces mines de services ne sont que les produits d'appel d'un supermarché où le principal objet à vendre est nous-mêmes. Parfois, je me prends à rêver que des codeurs, des informaticiens, des citoyens vont se mettre ensemble pour proposer les mêmes outils mais sans embrouille, sans arnaque. Ce rêve, d'autres l'ont eu avant moi et l'ont transformé en réalité. Dégooglisons saison 2. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est le titre d'un billet publié par l'association Framasoft qui a décidé de proposer des alternatives citoyennes aux services de Google et autres géants omnivores du web. Ils en ont déjà lancé 15, dont Framasphere, le réseau social Framapic pour héberger ces images, ou Framabi, le moteur de recherche. Ce mois-ci, ils ajoutent Framadrive, qui est un disque dur de 2 gigas, et Framadrop pour envoyer de gros fichiers par mail. Pourquoi font-ils cela? Ils l'expliquent dans le billet de blog de présentation. Nous ne voulons pas remplacer Google, ni Amazon, Facebook, Apple ou Microsoft pour framasoftiser Internet. Notre but est simplement de sensibiliser les gens, de démontrer que le logiciel libre offre des solutions et alternatives viables. Sensibiliser, permettre de comprendre, de réfléchir à un quotidien plus juste, plus loyal, c'est ce qui décrit le mieux la démarche de notre invité, le sociologue Dominique Cardon. Il vient de publier un court essai au titre plein de poésie, « À quoi rêvent les algorithmes ?»
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf. Simon de Creuse.
Et vous.
Il y a, alors je ne vais pas dire une poésie des algorithmes, ce serait très exagéré de le dire, mais il y a une sorte de complexité et de raffinement qu'il faut entendre, qui ne ressemble pas beaucoup au discours public qu'on a sur le calculateur froid, et qui ne ressemble pas non plus au discours public qu'on a sur la vente de l'algorithme qui va changer le monde et tout nous permettre. Hein. C'est que finalement, dans les laboratoires, entre les deux, il y a un univers qui est beaucoup plus passionnant, exigeant, intelligent et parfois poétique.
J'espère que vous n'êtes pas trop dérouté par le thème que nous allons explorer aujourd'hui avec notre invité. Si vous êtes une habitué de cette émission, vous devriez déjà avoir une petite idée de ce que sont les algorithmes et de l'importance que revêtent ces programmes informatiques dans notre quotidien et notre futur. Nous avons évoqué cette question récemment avec des économistes, avec un philosophe, avec des journalistes. Aujourd'hui, nous ajoutons l'approche sociologique à notre exploration grâce à notre invité. Bonjour Dominique Cardon.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au laboratoire des usages d'Orange Labs et professeur associé à l'université de Marne-la-Vallée. Vous venez de signer « À quoi rêvent les algorithmes au seuil » dans la collection « La République des idées ». Je vais en lire les premières lignes. Un nouvel objet a fait son entrée dans nos vies, les algorithmes. Ce terme d'informatique a une signification bien plus large qu'on ne le croit. Comme la recette de cuisine, un algorithme est une série d'instructions permettant d'obtenir un résultat. À très grande vitesse, il opère un ensemble de calculs à partir de gigantesques masses de données. Il hiérarchise l'information, devine ce qui nous intéresse, sélectionne les biens que nous préférons et s'efforce de nous suppléer dans de nombreuses tâches. Nous fabriquons ces calculateurs, mais en retour, ils nous construisent. Comment sommes-nous construits par les algorithmes?
Mais voilà, l'idée c'est qu'il y a un nouvel objet qui apparaît dans nos vies et puis dans l'espace public aussi, avec ce mot un peu étrange qui est algorithme, c'est-à-dire en fait des systèmes de calcul. Et ils sont en train de structurer, ils organisent depuis longtemps déjà, mais maintenant leur présence est vraiment très sensible, notre environnement, parce qu'ils produisent des guides, ils produisent des recommandations, ils nous conduisent, ils nous incitent, ils nous mènent dans telle voie plutôt que dans telle autre. Et donc notre environnement, il a toujours été structuré par des routes, des magasins, des espaces collectifs. Désormais, nous vivons au milieu milieu de ces calculateurs. Et l'idée un peu de cet ouvrage, c'est précisément que ces calculateurs, c'est un, voilà, algorithme, c'est tout neuf dans l'espace public. Il faut ouvrir la boîte, il faut se mettre à en discuter parce qu'on va vivre avec.
Et nous sommes devenus dépendants de ces calculateurs, et pourtant nous raillons leur froideur, leur caractère automatique, etc.
Oui, alors c'est un des traits du débat, mais de cet objet naissant dans l'espace public, c'est immédiatement d'imaginer que sur le mode de la rationalisation, de la colonisation de nos existences, ils sont en train de nous enfermer dans des boîtes, de nous aliéner, ce qui peut être le cas. Et ces dangers, c'est important de les souligner parce que il est évident qu'il y a des situations dans lesquelles une partie de nos choix sont déterminés par des calculs qui sont faits à notre insu. Mais c'est aussi des objets qu'il faut d'abord comprendre, hein, parce que ils nous rendent aussi des services. Et les comprendre, les décortiquer, c'est les politiser. Voilà, moi j'ai l'habitude de dire qu'il faut politiser les algorithmes aujourd'hui.
Pourquoi politiser ?
Politiser parce que ces algorithmes, d'abord ils sont fabriqués par des ingénieurs, ils sont fabriqués par des grandes entreprises, des entreprises américaines surpuissantes, et que évidemment ceux qui les fabriquent ont des intentions. Ils ont des stratégies, ils ont des intérêts, ils veulent leur faire faire un certain nombre de choses. Alors, ces choses sont liées à leurs intérêts économiques, mais pas seulement. Ils produisent aussi une représentation de la société. Et cette représentation de la société, elle choisit un principe, et c'est d'une certaine manière le rêve des algorithmes, hein, c'est finalement d'ordonner le monde en fonction d'un principe. Est-ce que cette information, je la montre parce qu'elle est populaire et que tout le monde l'a regardée ? Est-ce que je la montre parce que mes amis l'ont vue ? Est-ce que je la montre parce qu'elle est très récente et très fraîche ? Donc en fait, ces trois choix, la popularité, l'autorité ou bien la fraîcheur de l'information, c'est une manière de représenter la société qui est différente, donc il faut qu'on puisse le comprendre, et qu'on puisse en discuter, et qu'on puisse imposer aussi nos choix à ceux qui les fabriquent.
On va tenter de comprendre mieux ce que sont et ce que représentent les algorithmes, c'est un des objets de cet ouvrage. Avant cela, peut-être on pourrait expliquer ce qu'est l'approche sociologique sur ce terme, qui est un terme d'informatique, peut-être de mathématiques un petit peu, notamment parce qu'on a reçu à ce micro des économistes, un philosophe récemment, Bernard Stiegler, ou des journalistes qui s'intéressent au quantified self, qui tous ont une approche différente. Qu'est-ce que c'est l'approche du sociologue face à ces objets ?
Ben, il y a une tradition très forte en histoire et en sociologie, on dit de façon grandiloquente, anthropologie des sciences et des techniques, qui est de travailler sur ces artefacts techniques, ces entités comme ça, techniques, avec un regard d'anthropologue comme on le ferait pour la sociabilité, un groupe d'individus, une pratique sociale ou une pratique marchande. C'est de regarder les objets techniques en les visitant, en les explorant, en regardant ce qu'ils cherchent à faire, en regardant ceux qui les ont conçus, et surtout en regardant, c'est la chose qui intéresse le sociologue, le couplage qui se fait entre nos sociétés et puis ces entités techniques. Parce que le grand message, hein, un petit peu, c'est de dire qu'il faut pas... Enfin, il est assez vain, me semble-t-il, de séparer d'un côté la froide technique et puis de côté la grande sagesse des humains. On fait de la philosophie avec ça, plus ou moins bonne.
Les techniques et les humains ont toujours été liés, ils continueront à l'être... En tout cas, aussi longtemps qu'on peut imaginer.
Absolument. Et même, et beaucoup d'anthropologues importants soulignent que ce qui nous a rendu humains, c'est précisément le fait que nous avons délégué à des objets techniques, à l'écriture, une partie de notre savoir et de nos connaissances. Donc, nous formons couple avec ces machines. Mais simplement, ce couple, il faut pas le former n'importe comment. Il faut être très humain, c'est-à-dire très réflexif, très critique dans la manière dont on conçoit notre vie avec les algorithmes.
L'objet de ce livre, je vous cite, est de comprendre ce que la révolution des calculs apportée par les big data, les mégadonnées, on dit en français aussi, est en train de faire à nos sociétés. Il décrit le monde auquel rêvent les algorithmes avant que nous nous réveillions trop tard.
Oui, ben parce que on sent qu'il y a une crainte, hein, aujourd'hui à l'égard de ces objets, et que cette crainte elle est assez justifiée du fait de ceux qui les possèdent, hein, et des intérêts économiques de ces grandes entreprises. Il y a cette idée qu'ils puissent nous calculer à notre insu, subrepticement, à très lointaine distance dans des serveurs qui sont très éloignés et sur lesquels on n'a aucune prise sur ce nouvel environnement. Alors l'idée vraiment est un peu de désensorceler de cette idée de la magie des calculateurs, mais pour ça il faut vraiment essayer de comprendre ce qu'ils font. Il faut d'une certaine manière, ça c'est un des messages des sociologues à l'égard des gens des technologies, c'est qu'il faut pas se laisser intimider parce que c'est compliqué.
Hein. Pour tenter d'examiner la fabrication des algorithmes, je suis allé rencontrer un chercheur en informatique et il m'a accordé quelques minutes à la sortie de son cours à l'Université Paris-Sud.
Je m'appelle Frédéric Vernier, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Sud à Orsay en informatique, plus particulièrement une partie de l'informatique qu'on appelle les IHM, les interfaces homme-machine, qui s'intéresse à comment on utilise les ordinateurs, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et puis je travaille aussi en visualisation de données. ce qui est un domaine connexe au big data, puisqu'on essaye de visualiser ces énormes masses de données qui sont aujourd'hui accessibles partout.
Qu'est-ce que c'est un algorithme ?
Un algorithme, c'est une recette de cuisine qu'on donne à quelqu'un d'autre. C'est pas nous qui allons faire la recette de cuisine, c'est l'ordinateur. On la lui écrit, on lui dit voilà, il va falloir que tu fasses ci et ça, et ensuite il faudra faire ça et encore autre chose, et puis il va falloir répéter ça jusqu'à ce que tu trouves le comme ça, et puis etc. L'ordinateur, il va exécuter son algorithme à une vitesse qui n'est pas la nôtre, à des milliards d'opérations par seconde, et c'est pour ça qu'on le lui fait faire à lui et qu'on le fait pas nous, parce que nous, on n'aurait pas cette patience de faire des milliards d'opérations. D'abord, on part du besoin. De quoi on a besoin? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Donc, souvent, on part d'une intention. On a envie d'atteindre un résultat. Alors, souvent, un algorithme commence par quelles sont ses données d'entrée. Alors, je prends en entrée int x, int y, parce que donc on prend en entrée deux entiers x et y, et puis image img, parce qu'on a une image qui s'appelle img. Et puis ensuite, on va avoir des instructions de base qui vont être le si alors sinon ou le tant que ou le pour. Donc, ça va être par exemple pour i allant de 0 à taille de l'image. Le im pixel vaut la couleur, niveau de vert c'est i divisé par 100, niveau de rouge c'est 255 pour tout le monde, niveau de bleu c'est i fois 30, voilà ce genre de choses là. Et puis je sors de ma boucle parce que ma boucle elle a fait traiter tous mes pixels en i, il faut que je mette une autre boucle autour, donc j'en mets un peu au-dessus, un peu en dessous. Mais je l'ai pas écrit comme ça, je l'ai pas écrit de haut en bas. Je l'ai écrit par morceaux, puis après j'en rajoute avant, j'en rajoute après, ça grossit un peu des deux côtés.
Comment est-ce qu'on rend un algorithme intelligent ?
Alors, il y a des familles d'algorithmes, de programmes, qu'on va dire des réseaux de neurones, des algorithmes génétiques, etc., dont le but est d'essayer un petit peu de s'adapter aux données en entrée. On essaye de fabriquer quelque chose d'assez générique qui va essayer d'établir des connexions entre des données d'entrée qui me sont données et puis des données de sortie qu'on voudrait que l'algorithme ressorte. Ces algorithmes-là, on ne sait pas exactement comment ils marchent parce que on le fait faire sur des très grandes quantités de données. Il y a des très grandes quantités de possibilités. C'est l'algorithme un peu mystérieux. Cet algorithme, surtout, on l'entraîne. C'est-à-dire, on lui donne des tas de bonnes réponses et à chaque fois qu'il se trompe, on le punit, on lui dit non, c'est pas ça qu'il faut faire et tu te reconstruis, il faut recommencer. Et quand il donne la bonne réponse, on lui dit au contraire, tu gardes bien comment tu t'es organisé parce que ça marche. Et cet algorithme-là va finir par converger vers une boîte noire qui arrive à donner des bons résultats dans un certain nombre de cas. Par exemple, vous lui donnez un texte en entrée, il est censé vous le traduire dans une autre langue en sortie. Et ben, quand il arrive bien à traduire et que vous comprenez, vous lui dites ah oui c'est bien, et quand c'est incompréhensible ou qu'il a traduit le contraire, vous lui dites c'est mal et il recommence, il propose d'autres traductions et puis au bout d'un moment il devient autonome, vous lui donnez juste des nouvelles entrées sans lui donner la bonne réponse et vous espérez obtenir des bonnes réponses.
Dernière question, à quoi rêvent les algorithmes ? Qu'est-ce que ça vous inspire ?
À quoi ils rêvent? Alors ça dépend exactement ce que vous entendez par rêver. Rêver, ça peut être le désir, ce qu'on a envie. Le rêve, ça peut être aussi ce qui se passe pendant la nuit quand on est endormi et que au petit matin, on se dit mais tiens, j'ai rêvé à une combinaison complètement improbable où j'étais en maillot de bain au supermarché en train de tondre la pelouse entre les rayons de supermarché. Toutes ces combinaisons improbables qui nous viennent de nos rêves, est-ce que finalement c'est pas celles que peuvent tester les ordinateurs en étant très exhaustifs, en regardant des tas de combinaisons possibles, en trouver des combinaisons un petit peu improbables? Peut-être c'est ce que peuvent faire les ordinateurs. Donc ce à quoi ils rêvent, c'est de trouver une combinaison improbable mais qui satisfait celui qui a écrit l'algorithme.
C'était Frédéric Vernier, chercheur en informatique, enseignant à Paris Sud. Vous l'avez écouté attentivement, Dominique Cardon. Quelques réflexions?
Ah ben c'est une très très juste description là d'un morceau de code de programme. Et puis un point qui est très central aujourd'hui dans la manière de programmer ces algorithmes et qui moi m'intéresse beaucoup, mais là comme sociologue et notamment dans le rapport à la statistique, on pourrait dire, c'est que on a eu très souvent des moments où les algorithmes on les programmait avec une théorie qu'on avait déjà sur l'organisation des données. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on savait quelles étaient les variables qu'il fallait corréler entre elles pour produire le résultat qu'on attendait. Et que la manière dont le monde se laissait décrire par le calcul était explicable, compréhensible, qu'il y avait des lois de relation entre les variables qui étaient fortes et stables. Ce qui arrive maintenant avec la puissance de calcul, en fait, on ne programme plus ces lois. on ne les connaît plus et on ne peut plus les connaître.
Parce que, l'algorithme va faire des millions et des millions de calculs, on va lui rajouter des couches et des couches, et en fait, c'est impossible de savoir exactement ce qui se passe.
Voilà, c'est ça. Il teste en fait un échantillon de théories, mais un échantillon, c'est-à-dire des millions de solutions. Il les règle localement, et donc elles peuvent changer en fonction des données qui arrivent en entrée. On peut très bien obéir à une règle à un moment, mais à une autre règle à un autre moment. Et donc, ce tissu de règles sont des règles d'apprentissage. Et ça, c'est la grande nouveauté de ces nouvelles méthodes. On appelle ça le machine learning, l'apprentissage machine. C'est que on va, à partir d'un échantillon de données qu'on connaît, on va essayer de demander à l'algorithme d'apprendre les règles sur l'échantillon qui est connu. On a 1 million d'images, et puis sur ce 1 million d'images, on en a 100 000, c'est des chats. Donc on lui dit, sur ces 100 000 de chats, tu vas essayer d'apprendre à reconnaître des patterns de la forme de chat. Mais il va la décomposer complètement, Il va regarder un petit bout d'œil, un petit bout de moustache, un petit bout de queue, et puis il va déposer ça dans des neurones qui ont enregistré des valeurs à un endroit ou à un autre. Et puis, une fois qu'il a appris, à partir de ces 100 000 chats, ben on a 900 000 autres photos, on ne sait pas ce que c'est. Et ben on va lui dire, avec les règles très très locales que tu as apprises sur les chats, tu vas nous trouver les chats dans les 900 000 autres où on ne sait pas qu'il y a des chats. Alors ça, c'est des techniques qui sont en train de marcher. C'est d'une certaine manière une des grandes transformations actuelles du machine learning. Ça marche très bien pour la reconnaissance d'images, on appelle ça le deep learning. Ça marche beaucoup moins bien, mais ça fait des progrès considérables pour la traduction automatique, ça marche pour un certain nombre de choses, mais évidemment, et c'est un des points aussi qu'il faut souligner dans ce débat, c'est qu'on est très très loin de, et je mets des guillemets, je mets 25 guillemets, de l'intelligence. En fait, c'est un algorithme statistique. Il est extrêmement fort parce que il calcule des bases de contexte, de données étiquetées ou non étiquetées, extrêmement rapidement. Il peut comparer les contextes d'utilisation et du coup, il fait des estimations probabilistes qui sont, sur certains cas, relativement fiables, sur d'autres, pas du tout.
On est loin de l'intelligence artificielle, mais en même temps, c'est frappant cette idée que même ceux qui sont en train de programmer ces algorithmes ne savent pas exactement pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Il y a un côté apprenti sorcier, démiurge, qui fait peut-être peur, ou en tout cas qui pose question, puisque ces objets sont en train de changer le monde, sont en train de diriger, de choisir des choses pour nous en permanence.
Alors c'est effectivement une grande transformation épistémologique, qui dans les laboratoires de recherche, etc., est en train de transformer les choses. Un chercheur n'est plus quelqu'un qui essaie d'expliquer le monde avec des lois, c'est quelqu'un qui essaie de le rendre prédictible et efficace. Donc il y a des modifications. Ceci étant, il faut pas non plus trop forcer. En fait, le chercheur qui les programme, il sait très bien ce qu'il cherche, parce que ces algorithmes sont supervisés dans la plupart des cas, pas toujours, mais sont supervisés. Quand on dit supervisés, ça veut dire qu'on lui a donné un objectif. Donc, en fait, on sait ce qu'on cherche. L'idée qu'on a fait disparaître la théorie est aussi un mythe que, de temps en temps, les chercheurs de ces algorithmes essaient de soulever avec cette idée qui est très scientiste. C'est l'idée que la nature est mathématique et que nous n'arrivons pas à découvrir les lois de dépendance entre les atomes de la nature, mais qu'un bon algorithme pourrait le faire. Et ça fait partie de l'idéologie actuelle des big data.
Il y a aussi cette idée, on va marquer bientôt une courte pause, mais juste un mot sur ça, cette idée de boîte noire que vous reprenez aussi dans le livre. Alors là, c'est la boîte noire parce qu'on ne sait pas comment ça marche, mais c'est aussi la boîte noire parce que souvent on n'a pas accès à ce qui a écrit, à ce que font ces algorithmes, même si on les comprend pas, on peut même pas avoir accès. Est-ce que c'est important d'avoir accès, ou est-ce que finalement, comme personne ne comprend comment ça marche, c'est pas important d'avoir accès à l'algorithme de Google, PageRank par exemple, qui est très connu mais qui est secret?
D'un point de vue politique, c'est très important d'avoir accès, et donc l'ouverture, la transparence et la critique est très nécessaire. Il est vrai que c'est pas parce qu'on va avoir accès qu'on va comprendre quelque chose. On vient d'entendre un magnifique exemple d'informaticien, et les gens de Google ne savent pas expliquer pourquoi sur telle requête, tel site est apparu en tête, parce que c'est l'algorithme qui a décidé en fonction de ce qu'on a expliqué précédemment. Mais la chose qui est importante, et c'est pour ça qu'il faut pouvoir discuter des algorithmes, c'est de vérifier qu'ils sont loyaux. Et pas neutre. Il y a toujours cette idée.
La loyauté des plateformes.
La loyauté des plateformes et des algorithmes. C'est-à-dire que, il me semble assez impératif qu'on demande à ces plateformes ce qu'elles font plus ou moins bien, qu'elles nous expliquent quels sont les objectifs qu'elles lui ont donnés. Ça veut pas dire toutes les règles internes, mais de savoir quel est l'objectif qui leur a été donné pour vérifier que, par derrière, les entreprises ne sont pas en train de servir d'autres objectifs qui servent leurs intérêts économiques. Amazon me dit, je te recommande les livres qui ont été les plus lus par les gens qui ont acheté les mêmes livres que toi. C'est une très bonne recommandation parce que ça s'appuie sur des mécanismes sociaux d'affinité entre les goûts. Mais qui nous dit que Amazon n'est pas aussi en train d'ajouter des livres parce qu'ils ont un accord éditorial avec un éditeur.
Ou qu'ils ont un stock à liquider.
Absolument. Et donc, cette question de la loyauté, cette idée qu'ils puissent mentir, qu'ils puissent trahir, est extrêmement importante. L'affaire récente de Volkswagen nous en a donné un exemple magistral.
On va marquer une courte pause, Dominique Cardon, on se retrouve dans un instant.
L'atelier des médias.
Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec le sociologue Dominique Cardon. Il vient de publier un court essai où il s'interroge sur la place des algorithmes informatiques dans notre vie quotidienne.
L'atelier des médias, la web émission participative.
À quoi rêvent les algorithmes? C'est le titre de votre essai publié au Seuil. On a compris dans la première partie de l'émission que c'était pas nécessaire de comprendre exactement comment ils marchent. D'ailleurs, on comprend pas toujours comment ils marchent. En revanche, on peut peut-être classer leurs intentions, classer leur fonctionnement. Et c'est finalement ce que vous essayez de faire dans le premier chapitre du livre. Vous vous intéressez en particulier aux algorithmes du web, c'est-à-dire de l'interface visuelle d'Internet quand on utilise un navigateur. Et vous essayez, en reprenant l'histoire, en reprenant les intentions, de les classer et vous trouvez quatre familles.
Voilà, l'idée c'est qu'une lecture sociologique de ces algorithmes, c'est de comprendre quel est leur objectif politique, leur rêve politique, la manière dont ils dessinent la société. Et il y a effectivement dans l'histoire du web, et ils sont toujours co-présents, c'est pas une histoire qui ferait disparaître une famille après l'autre. Il y a quatre grandes familles de représentation de la société qui sont sous-jacentes aux techniques de calcul qui sont mises en place. Il y en a une, c'est la popularité. Ce qu'on voit, c'est ce qui est le plus populaire, ce qui est le plus cliqué par des gens qui sont tous égaux les uns avec les autres. Ça vient des médias de masse, de la télévision, de médiamétrie, c'est un des systèmes de classement de, on pourrait dire, de la publicité.
Il y en a mesure d'audience.
Et donc la société est représentée par les catégories de la population qui a été sensible à telle ou telle information. Le web a inventé une autre mesure qui est fascinante, qui est l'autorité. C'est le PageRank de Google, c'est de considérer que l'information, c'est pas parce qu'elle est vue par beaucoup de gens qu'elle est de qualité, elle est de qualité si elle a été citée par beaucoup de gens qui eux-mêmes ont été beaucoup cités par beaucoup d'autres gens. Et donc il y a une sorte d'idée de jugement des experts, de calcul de la reconnaissance, qui fait que on met en haut des classements les informations ou les sites qui ont obtenu beaucoup de reconnaissance, et puis on dissimule tous les autres, ce qui produit une sorte de méritocratie extrême.
Et il faut expliquer que si PageRank a eu autant de succès, donc l'algorithme de Google, c'est parce que quand on s'appuyait sur la popularité des sites pour les mettre en avant, etc., on pouvait très facilement tricher, alors que leur technique de popularité, où il faut que des dizaines et des dizaines et des dizaines de sources vous aient cité pour que vous soyez mis en avant, on peut tricher évidemment, mais c'est beaucoup plus compliqué.
Alors, il faut vraiment dire que, comme une loi générale, tout algorithme est trucable. On peut tricher avec toutes les mesures, même les mesures les plus cachées et discrètes. Mais évidemment, c'était plus difficile avec le Google Score.
On va continuer sur cette idée des classements. Donc, il y a la popularité, il y a l'autorité. Juste une anecdote sur cette idée d'autorité. Donc, on l'a compris, Google, pour valoriser une page ou un site, etc., il va aller regarder qui cite ailleurs cette page. Et Frédéric Vernier, avec qui je parlais, il a lui une technique, parce que parfois il cherche des bonnes sources, c'est-à-dire des personnes qui vont classer l'internet, donner des liens vers plein de sites, etc. Et ces personnes-là ne sont pas valorisées par l'algorithme de Google, c'est-à-dire que si sur ma page j'ai mis 250 liens vers des sites intéressants, si personne ne met de liens vers ma page, eh bien je serai peu visible de l'algorithme de Google. Et donc lui, ce qu'il fait, c'est que il met dans sa recherche Google toute une série de liens vers des sites qu'il sait être intéressant, et il cherche des personnes qui les ont cités pour retrouver. Je ne sais pas si c'est assez clair.
Non, je vois.
Il contourne la logique de l'algorithme pour venir à ses fins, parce que la logique de l'algorithme ne correspond pas à ce qu'il cherche, en fait.
Exactement. Mais c'est une merveilleuse histoire, parce que c'est ce qu'il faut qu'on apprenne à faire avec ces outils. C'est-à-dire, en fait, à les comprendre et du coup avoir des stratégies, des ruses, des habiletés, des techniques. Et il est évident, alors c'est un enseignement général et très pédagogique sur les moteurs de recherche, c'est qu'il faut densifier le nombre de mots-clés. Alors on peut mettre des mots-clés, on peut mettre des liens, etc. Mais effectivement, on va améliorer la qualité de sa recherche pour éviter l'effet que produit les moteurs de recherche sur l'organisation de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'arrête qu'à la première page. Cette première page, à force de rassembler des gens qui sont cités par tout le monde, elle devient extrêmement normalisatrice, en fait, et extrêmement conformiste dans ses choix. Et puis surtout, elle produit un classement assez typique, je crois, des sociétés dans lesquelles on vit et auxquelles Google participe, qui sont purement méritocratiques, mais dans une sorte de avec tous les effets pervers de la méritocratie, c'est-à-dire qu'il y a une petite fraction extrêmement minime d'excellents.
Les 1%,
et 1%, c'est leur donner déjà beaucoup trop, parce qu'en réalité, c'est 0,01%, et puis le reste, c'est des médiocres. Et quand on classe l'information au niveau mondial, les hiérarchies locales, centrées, différentes, etc., n'apparaissent plus. Et donc, il y a un effet de on peut pas dire que les liens classés par Google ne sont pas des bons liens, ils le sont. Mais simplement, ils restreignent considérablement notre curiosité à l'égard d'autres manières de classer. Et c'est pour ça que d'autres familles sont apparues dans l'histoire du web.
Justement, donc, les deux premières familles, la popularité avec le nombre de clics, l'autorité avec qui vous cite, etc., vient ensuite la notion de réputation.
Absolument, et elle vient avec le web social, donc celui des réseaux sociaux, de Facebook, Pinterest et tous les autres. Et il vient avec l'idée que précisément la mesure d'autorité était beaucoup trop centralisatrice, elle était la même pour tout le monde, et elle vient avec une idée, et qui est typique aussi de l'individualisation de nos sociétés, c'est-à-dire elle nous dit, chacun a des choix différents. Votre ami tout à l'heure, il voulait voir quelque chose qui correspondait à ses propres centres d'intérêt. Et donc, si les individus ont des différences, s'ils ont des singularités, si tout dans notre société les enjoint d'être différents et d'être singuliers, il faut qu'ils puissent construire une fenêtre d'information sur le monde à partir de leur réseau affinitaire, de leur choix, de leur goût. Donc on va renvoyer la responsabilité vers les individus en disant, en t'abonnant à telle personne, en devenant ami avec telle personne, tu vas voir arriver dans ton newsfeed, dans ta timeline, tu vas voir arriver les informations de ceux auxquels tu t'es abonné. Et du coup, ce qui est produit, c'est une information qui est une série de niches individuelles qui est construite à partir du réseau de choix et du réseau social des individus, et dans lequel la question de la réputation va rapidement devenir centrale, parce que le calculateur, cette fois-ci, il n'est pas caché très loin dans les serveurs de Google qui ne veut rien dire sur ce qu'il est en train de faire, il est sur la page Facebook, Twitter, Pinterest de l'individu.
Et donc il y a un compteur physique, il y a le like, de j'aime, voilà, de tout ça qui montre la popularité, la réputation de cet objet, de cette page, de ce partage, etc.
Absolument. Et comme dans toutes les techniques de benchmark,
c'est la comparaison.
La mesure ne dit pas grand-chose sur la réalité des phénomènes, mais en revanche, on cherche à augmenter sa mesure. On cherche à la comparer avec les autres. On cherche à vérifier qu'on a obtenu une réputation plus forte. On cherche à éviter d'envoyer des tweets qui ne sont pas retweetés et à trouver le bon moment et le bon instant pour le faire. Donc on a le compteur qui est constamment visible dans l'action de l'utilisateur et qui devient en partie, et pas pour tous les utilisateurs, il faut bien insister que ça concerne souvent les utilisateurs les plus actifs de ces plateformes, mais dans lequel la mesure devient un outil réflexif de calcul sur l'efficacité de leur propre action. Et donc on introduit d'une certaine manière un utilisateur qui devient en partie stratège dans la manière dont il produit, construit, et puis il y a beaucoup de gens pour nous dire, faut construire sa réputation, il faut la fabriquer, dans ces espaces qui sont émaillés partout de petits compteurs pour venir nous guider.
Et ce qui est frappant aussi, je veux bien que vous commentiez ou que vous me contredisiez, c'est que ces réalités-là ont du mal à cohabiter. Google a du mal à gérer, ou en tout cas à refuser pendant longtemps de gérer la réputation sur les réseaux sociaux, de gérer ce qui était sur les réseaux sociaux, etc. Ça change un petit peu, et en même temps, ça devient un peu une bataille de géants où les uns ne veulent pas fonctionner avec les outils des autres, alors que toutes ces sources d'informations sont intéressantes. On pourrait les coupler autant qu'on veut, parce qu'elles vont toutes apporter des informations, mais dans la réalité, ça a du mal à marcher ensemble.
Absolument, et c'est pour ça qu'il faut entrer dans les algorithmes, pour voir ce qu'ils font, pour voir ce qu'ils ont envie de faire, parce qu'en fait, ils produisent des principes qui sont pas si faciles à concilier que ça. Quand Google dit que les liens hypertextes qu'on a mesurés mesurent l'autorité du site, quand ils regardent des tweets et des likes sur Facebook, ils disent, est-ce que c'est bien de l'autorité qui circule dans ce like, est-ce que c'est pas plein d'autres choses? Et donc il a effectivement beaucoup de mal, et il le fait très peu, parce que là on est dans une sorte de circulation mimétique, virale, réputationnelle, qui produit un bruit très intéressant, parce qu'elle organise l'information pour les individus, mais l'idée qu'on puisse de chaque information d'individu en refaire une mesure centralisé, ce qui est quand même le cas globalement du moteur de recherche, est assez difficile à mettre en place, et c'est la raison pour laquelle l'histoire nous montre que Google est en train de personnaliser de plus en plus un résultat qu'il pensait autrefois comme étant un résultat pour tout le monde. Il est en train progressivement d'introduire une sorte de personnalisation en fonction des traces de navigation de l'internaute, parce qu'il intègre d'une certaine manière, le principe de la troisième famille, de la réputation, à l'intérieur de son classement.
Et il personnalise au point qu'il donne aussi des résultats qu'il a trouvés dans vos propres mails, etc. Récemment, j'ai eu une suggestion de Google qui m'a proposé mon propre mail dans une recherche associée à mon nom. Ça m'a tout de suite frappé. Et là, j'ai compris donc dans l'encart que c'était juste destiné à moi et qu'il avait été chercher ces informations dans mes informations personnelles, et que c'était aussi une phase de test. C'est-à-dire que, et ça, c'est une autre réalité de ce monde numérique, c'est qu'on est testé en permanence et ces outils testent en permanence des solutions sur nous-mêmes, directement, sur des millions de personnes sans qu'ils le sachent.
Absolument. Alors, les logiques de personnalisation de Google sont très mystérieuses. Et là, vraiment, il y a un besoin d'ouvrir la boîte, hein, et que Google parle, surtout, nous explique ce qu'il fait. Bon, et on est les cobayes constants de ces entreprises. Hein. Donc ils testent une solution. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Il y a vraiment plein de d'hypothèses qui sont faites. Et là, on retrouve vraiment ce qui va arriver justement dans la quatrième famille, hein, qui est celle du machine learning qu'on évoquait tout à l'heure, celle où on suit les traces des individus. C'est que d'une certaine manière, dans le monde numérique, nous produisons des actions ou des gestes qui sont la conséquence de l'information qui nous a été recommandée. Et donc, on va pouvoir utiliser la conséquence pour organiser l'information. Et donc, quand je clique sur tel lien, quand Google teste une information qui vient de ma boîte mail personnelle, si je la clique, il va considérer que c'est quelque chose qui peut m'intéresser et il va l'enregistrer pour la prochaine fois. Si je ne la clique pas, il va en tirer des conséquences et peut-être oublier cette variable dans les prochains classements. Et donc, il y a une sorte d'apprentissage continu qui est fait à travers les clics que nous avons réalisés.
Et c'est là qu'on produit de la prédiction. C'est la quatrième valeur ou la quatrième recherche ou la quatrième utilité de ces algorithmes du web.
Ces calculateurs enregistrent certaines traces de comportement, ils nous les affectent, et ensuite, à partir de ces traces passées, en comparant avec les traces passées d'activités d'autres personnes, on va pouvoir essayer d'inférer ce qu'ils pourraient faire dans le futur.
Et c'est là que vous soulignez qu'il y a trois révolutions qui frappent l'univers des statistiques. La première, c'est que les mesurés sont de plus en plus facilement des calculateurs eux-mêmes, il faut expliquer. La deuxième, c'est que les catégories, ça c'est très important, sont de moins en moins représentatives, les fameuses CSP qu'on utilisait en statistique, les catégories socio-professionnelles. Et la troisième, c'est, alors ça aussi c'est compliqué, on va expliquer, c'est que les corrélations statistiques ne sont plus de la cause vers la conséquence, mais plutôt des conséquences vers des causes probables.
Voilà, alors c'est la manière à partir de ce tableau de politiser les algorithmes, c'est voir qu'en fait, ils correspondent à des tableaux de la société qui sont en train de se transformer. On avait des manières statistiques de représenter la société un peu par le haut, et notamment à travers des catégories, c'est-à-dire que l'individu, il appartenait à des CSP, le marketing s'est constitué comme ça. On n'avait pas besoin de savoir exactement tout ce qu'il faisait, il suffisait de savoir s'il était jeune, vieux, s'il habitait en province ou à Paris, et quel était son niveau de revenu. Aujourd'hui, ces calculateurs sont en train de nous dire non. Il faut arrêter de représenter par le haut avec des catégories de la société, on peut les prendre par le bas. D'abord parce que les individus le demandent, ils veulent plus être représentés par des catégories, ils veulent affirmer leur singularité, et si on les prend par le bas à travers leurs traces, on va pouvoir mettre en place des mécanismes d'inférence des comportements possibles, sans avoir à revenir à une description de la société à travers les grandes techniques de représentation à travers lesquelles nous nous sommes habituellement reconnus comme faisant société. Et donc on a un processus qui accompagne en fait toute une série de transformations sociologiques qui vont dans la logique de la crise de la représentation, de la crise des catégories de représentation, et puis d'une individualisation et une singularisation des comportements de plus en plus forte.
La méfiance des individus à l'égard des hommes politiques, je vous cite, des journalistes, des experts ou des syndicalistes, a pour sous-bassement le refus de se laisser enfermer dans des classifications préalablement établies. Et ce que font les big data, ce que font les algorithmes aujourd'hui, c'est de répondre à ça, c'est-à-dire de dire aux gens, on ne va plus vous enfermer, on va vous connaître vous personnellement grâce à tout ce que vous laisser comme trace, comme clic, comme éléments qui nous permettent de savoir qui vous êtes.
Absolument. Alors c'est ce qu'ils prétendent faire. Hein. Mais la chose importante, c'est effectivement de montrer que finalement cette transformation à l'intérieur des paradigmes statistiques, elle correspond à des transformations socio-politiques fortes de nos sociétés. Alors quand on va voir un peu ce que font ces calculateurs, c'est que la publicité personnalisée, elle personnalise pas grand-chose, elle est un peu même rentre-dedans, que beaucoup de promesses liées au big data fonctionnent très moyennement. Hein. On nous dit toujours que Google prédit la grippe grâce aux mots-clés. Bon, il y a deux papiers dans la nature qui montrent que ça marche pas. Donc, il faut aussi être attentif à ne pas prendre ce qu'on fait parfois quand on est très critique à l'égard des algorithmes, hein, à pas prendre pour argent comptant tout ce que nous vend la Silicon Valley dans ses rêves les plus fous.
Autre citation qui va dans le même sens, si les calculs deviennent si conquérants, c'est que la société ne se laisse plus aussi facilement mesurer. Dans les sociétés hiérarchiques où l'accès à l'espace public était restreint, il était facile de parler au nom des individus au moyen de catégories qui les représentaient. Alors que le web a ouvert à tous le droit de prendre la parole en public, le monopole exercé par les représentants sur la description de la société a éclaté, et avec lui les catégories qui leur servaient à faire parler les autres. Ce qui est intéressant dans toutes ces idées, c'est que on va reprocher beaucoup aux algorithmes de faire ci, faire ça, et on comprend dans votre regard de sociologue, c'est qu'ils répondent aussi à des besoins et à des nouvelles réalités sociales qui ont été créées peut-être par le web, peut-être par l'internet, mais aussi par l'histoire des idées, par l'évolution, etc.
Absolument, absolument. Une société, en fait, les calculateurs ne calculent que dans une société qui se laisse calculer. Hein. Et elle se laisse calculer parce qu'effectivement, il y a quelque chose dans la forme actuelle de la recommandation individualisée et personnalisée, qui correspond à des transformations de nos sociétés, dont l'une essentielle et qui est liée au numérique web, c'est l'abondance informationnelle. On oublie toujours, mais on se rend plus compte de ce qu'étaient nos sociétés il y a 25 ans. Et donc, face à l'abondance informationnelle, il faut arriver à produire de l'ordre. Et puis surtout, il y a chez les individus, ça de façon très très forte, chez nous tous, une sorte de moteur social extrêmement fort, qui est l'idée que on a des goûts différents, singuliers, qu'on veut pouvoir les multiplier, qu'on veut toujours être ouvert à des opportunités possibles, avec toujours cette crainte que des portes nous soient fermées par les classements et les palmarès, et qui nous empêchent en fait d'être toujours à l'affût de la possibilité de l'altérité ou d'un changement. Alors ça, c'est vraiment une sorte de ressort en fait, hein, des individus aujourd'hui. Et la crainte, c'est que finalement ces algorithmes, dans une ère d'abondance, ils nous restreignent trop l'information, et qui nous conforte en fait dans des comportements que nous avons déjà eus, sans ouvrir la porte à des comportements que nous n'avons jamais eus, et donc qu'il ne connaît pas, mais que nous pourrions peut-être avoir, en tout cas que nous pourrions désirer avoir. La réalité, en fait, c'est que l'algorithme, il est extrêmement rugueux dans son raisonnement. Il dit, tu me dis que tu aimerais aimer telle chose, mais tu me l'as jamais montré précédemment, donc je te le montre pas. Parce que, en fait, souvent, ce que tu aimerais pouvoir faire, tu ne le réalises pas dans tes actions pratiques. Donc, sois conséquent, montre-le-moi. Et en cela, on trouve une sorte d'injonction néolibérale assez typique, hein, des formats actuels de gouvernance de nos sociétés, dans lequel, en fait, l'environnement dit aux individus, vous avez la responsabilité à travers vos gestes, à travers vos déplacements, à travers vos choix, à travers vos clics, d'informer les calculateurs sur le type de personne que vous êtes concrètement. Hein. Et le rêve de ces calculateurs, c'est justement de venir se coller dans les plis de ces comportements des individus, qui n'est pas exactement le pli de ses désirs ou de ses représentations.
On va marquer une courte pause musicale avec From Darkness to Light d'Emily Howell.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était From Darkness to Light d'Emily Howell. Dominique Cardon, vous venez de publier À quoi rêvent les algorithmes? À quoi rêve Emily Howell? Parce qu'Emily Howell, c'est pas une compositrice, c'est en fait un programme inventé par David Cope, qui est un informaticien américain. Et donc la musique qu'on vient d'entendre est celle d'un algorithme.
Bah, c'est merveilleux de donner aux algorithmes une sorte d'épaisseur qu'on leur dénie souvent. Hein. Moi, Bach est un musicien absolument géométrique. Hein, quand on écoute, c'est une suite de rebonds, de retours, de variations, hein, sur des thèmes qui sont des thèmes extrêmement mathématiques dans l'esprit. Et donc il y a, je ne vais pas dire une poésie des algorithmes, ce serait très exagéré de le dire, mais il y a une sorte de complexité, de raffinement qu'il faut entendre. Hein, et moi, je suis toujours très attentif à cette chose-là, qui ne ressemble pas beaucoup au discours public qu'on a sur le calculateur froid, et qui ne ressemble pas non plus au discours public qu'on a sur la vente de l'algorithme qui va changer le monde et tout nous permettre. Hein. C'est que finalement, dans les laboratoires, entre les deux, il y a un univers qui est beaucoup plus passionnant, exigeant, intelligent et parfois poétique.
En fait, je vous cite, les algorithmes rêvent de délester les humains de ce qu'il y a de plus mécanique dans leurs activités, assurant qu'ils les libèrent pour des tâches cognitives plus hautes, plus complexes ou plus ambitieuses. Donc en gros, délester Bach de la composition de ces morceaux trop géométriques.
Là, je le dirais pas pour Bach, parce que en fait, ils en sont pas encore tout à fait capables, et surtout pas de l'interprétation, parce qu'après, pour la musique, il y a la partition et l'interprétation. Mais il y a effectivement quelque chose d'assez central dans le projet de la colonisation de plein d'espaces socio-économiques, culturels par le calcul, et du coup aussi du marché du travail. Hein, c'est que beaucoup de nos activités sont incroyablement régulières, et d'une certaine manière, le message que nous donnent parfois les algorithmes, c'est que nous-mêmes, hein, dans nos choix, dans nos goûts, dans le fait que nos amis ont les mêmes idées que nous, dans le fait que nos discussions se ressemblent beaucoup, dans le fait que quand nous nous, nous déplaçons, nous empruntons exactement les mêmes trajets, il y a énormément de régularités et d'habitudes. Et donc, quand il y a des régularités et des habitudes, nous sommes des êtres d'habitude, les techniques qui observent les traces et qui ont suffisamment de traces, et sans évoquer le débat sur la vie privée, qui est évidemment constamment sous-jacent à cette capture d'informations sur les individus, si on capture les informations sur les individus à un niveau assez... suffisant pour arriver à opérer ces calculs, on les découvre très réguliers, et du coup les promoteurs de ces nouveaux services viennent dire bon, cette partie régulière de vos actions, je peux effectivement la déléguer à un outil qui va faire les choses pour vous, ou bien vous recommander ce qui correspond à vos pratiques.
Mais là où on voulait enlever de la moyenne, ne plus avoir de CSP préétabli, etc., finalement, puisque nous sommes des êtres très réguliers, très prévisibles, les algorithmes retrouvent cette centralité, cette moyenne dans leurs prédictions et dans ce qu'ils proposent de nous faire faire.
Alors, il y a un effet de conformisme, hein, évident, mais ce conformisme, il est en fait lié à nos habitudes et en grande partie à la structure des régularités sociales que les sociologues observent de façon très très régulière. Il y a en revanche, dans les nouveaux calculateurs, une idée, en tout cas pour les calculateurs des troisième et quatrième familles qu'on a évoqués, ceux de la réputation et de la prédiction, l'idée qu'on n'est plus obligé de ramener l'individu vers le centre de la société. Hein. Et ça, c'est très très central, parce que évidemment, c'est, alors, d'un point de vue épistémologique, c'est plus la même statistique qui est faite, hein, de façon caricaturale, évidemment, beaucoup plus compliqué que ça, mais on passe d'une statistique qui était fréquentiste, en fait, qui cherchait à rassembler les distributions des données autour de la moyenne, à des statistiques qui sont des statistiques probabilistes, qui nous viennent beaucoup de ce qu'on appelle la statistique bayésienne, et qui essayent d'imaginer que si on a assez de données, ce qui est rarement le cas, on peut très bien calculer correctement les activités des individus qui ont des pratiques extrêmement minoritaires au sein de l'échantillon de données. Et on n'est pas obligé de le ramener constamment vers le centre, peut-être pour le dire de façon plus simple, parce que je suis en train de m'enfoncer dans des détails statistiques. Si vous écoutez tout le temps Beyoncé, il est évident que ce qu'on va vous ramener, c'est ce qu'écoutent tous les gens Beyoncé. Et donc, en fait, la statistique de prédiction qui est faite sur vous va vous ramener vers la popularité traditionnelle des médias de masse et de l'audience. Mais si, en revanche, vous écoutez tout le temps John Cage, il est probable que l'algorithme va vous faire découvrir plein de choses dans le panorama de la musique contemporaine américaine.
Il est encore temps de dire aux algorithmes que nous ne sommes pas la somme imprécise et incomplète de nos comportements. Ça fait partie des injonctions finales du livre. Une explication?
Je consacre une partie à essayer d'examiner ce qu'ils font réellement et puis ce qu'ils savent moins bien faire. Hein. Et effectivement, ce qu'ils parviennent à faire, c'est ce dont on vient de parler, c'est-à-dire en fait de suivre des traces de comportement. Et j'insiste bien sur cette idée très très réaliste en fait. Hein. C'est est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il l'a pas fait. Hein. Ces informations sont très très utiles en fait au calculateur. En revanche, les dimensions expressives de l'individu, et nous sommes aussi des êtres d'expression, c'est-à-dire que nous pensons, nous avons des opinions, nous avons des sentiments, nous les manifestons. Le web social est un lieu très théâtral de production de tous ces signes dans lequel on manifeste des désirs, des envies, des représentations. Les calculs là-dessus sont à vrai dire très imparfait, et les prédictions sont pour l'instant assez médiocres. Hein. Et on sent très bien que, en fait, la vocation, pour après se dire l'idéologie, hein, souterraine des big data, de tous ces capteurs qui viennent, c'est de dire, on va prendre les individus dans leur comportement et pas dans ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Parce qu'en fait, ils se mentent parfois eux-mêmes, ou en tout cas, ils se trompent eux-mêmes sur ce qu'ils font réellement. Vous connaissez ce genre de statistiques que j'aimerais toujours rappeler. Je crois que dans les enquêtes d'audience, quand on demande aux gens pour la télévision, il y a 20% de gens qui regardent Arte. Bon, la réalité des mesures d'audience d'Arte est très très loin. Hein. Je sais pas à combien elle est, à 4% de ça. Donc il y a ce décalage-là, qui est en fait au fondement de l'individu. Hein. C'est qu'il a aussi envie, de temps en temps, de sortir de ses dépendances, de ses régularités, de ses habitudes, même s'il ne le réalise pas constamment ses projets. Et il est évident que ce côté extrêmement froid, extrêmement emprisonnant, en fait, de nos comportements, c'est une réduction de l'individu contre laquelle il faut lutter, en produisant de nouvelles techniques de calcul et d'algorithmes.
Il faut apprendre à ne pas désapprendre. On va se quitter sur cette idée qui est une des idées que vous développez à la fin, donc ne pas désapprendre parce que on est tellement prévisible que les algorithmes nous accompagnent dans tout, nous aident à tout faire, et finalement on devient assisté, on n'a plus de mémoire, etc. On devient quelqu'un d'autre. et vous rappelez qu'il faut apprendre à ne pas désapprendre.
Oui, absolument. Alors ça, c'est un message que Bernard Stiegler soutient aussi beaucoup. Et je crois qu'à l'égard de l'informatique, il faut être très attentif au fait que dans les objets techniques qui nous environnent, il y en a effectivement qui nous ont fait désapprendre. Hein, on ne sait plus très bien comment fonctionne le moteur d'une voiture, etc. Ce qu'on avait pu savoir à un moment. Avec l'informatique, il ne faut pas désapprendre. Hein, il ne faut pas se laisser intimider. Parce que effectivement, si ces machines deviennent des sortes de boîtes noires absolument fermées, absolument ininvestigables et incompréhensibles, les effets qu'elles vont avoir sur nos vies risquent de nous balloter dans tous les sens sans qu'on ait d'outils critiques pour prendre prise sur elle. L'informatique, elle a toujours été dans cette logique-là, cette logique des pionniers, elle a été ouverte, c'est une intelligence partagée, c'est aussi une sorte de d'espace de pratique et de tactique dans lequel il faut la comprendre, ruser avec elle, la transformer, et donc il faut continuer à l'apprendre. Et c'est le thème essentiel de, alors c'est à quoi d'ailleurs cet ouvrage aurait contribué, d'une littératie numérique, d'une culture numérique, dans lequel les algorithmes sont des nouveaux objets, pas plus intrigants que les autres, qu'il faut un petit peu décortiquer.
Développer la culture de la statistiques, développer la culture du numérique pour que les gens comprennent à qui, à quoi ils ont affaire et puissent décider de ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, etc.
Absolument, c'est l'objet.
Merci Dominique Cardon. À quoi rêvent les algorithmes, nos vies à l'heure des big data? C'est publié au Seuil dans la collection La République des idées. Merci d'être venu et on retrouvera la version longue de cet entretien et quelques liens supplémentaires sur l'atelier des médias. Bientôt.
À bientôt.
L'émission numéro 397 de l'Atelier des médias proposée par Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilette Sadawi, Simon De Creuse et Ziad Malouf. Pour nous réentendre, c'est sur RFI.fr, Soundcloud.com et sur toute bonne application de podcast. Si vous nous écoutez alors que vous êtes en train de courir, de vous déplacer dans la ville, dans la campagne, vous faites bien, partager la pratique du podcast autour de vous et n'hésitez pas à commenter notre émission sur les différents réseaux de partage audio. Salut à toutes et à tous. The noisy-